Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, on va essayer de continuer l'exploration des addictions en poussant un tout petit peu plus loin que l'année précédente, mais pas suffisamment loin pour aller chercher les questions de fond, parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, on a vu l'alcool, ou en tout cas l'alcoolisme, enfin l'addiction à l'alcool plus exactement, brièvement, malgré qu'il y ait deux séances, sans discussion. Donc là, cette fois, on va prendre une addiction, deux addictions qui sont assez étonnantes, puisque c'est par rapport à l'alimentation, donc essentiellement l'anorexie et la boulimie, qui sont complémentaires ou inverses, je ne sais pas encore, à vous à choisir. Et puis la semaine suivante, on essayera de voir, faire un coup de zoom sur d'autres addictions qui se présentent. Ce sont les jeux vidéo qui sont le cheval de Troie de cette question, parce que il y a beaucoup de jeunes enfants qui s'adonnent à ces jeux vidéo et qui deviennent addictés. Et donc, ça pose des questions, là aussi. Et puis enfin, il ne restera plus qu'une séance, donc ben, je vais la consacrer au passage à l'acte, l'acting out. Bien que j'ai déjà évoqué les passages à l'acte, hein, parce que toutes les fois que vous reprenez de la boisson plus que nécessaire, ou bien vous continuez à ne pas vous alimenter, ou que vous continuez à vous empiffrer, c'est toujours des passages à l'acte. C'est-à-dire, bon, il y a quelque chose dans la chaîne de la pensée qui s'interrompt, et puis il y a les pulsions qui deviennent vraiment impérialistes. Il faut absolument passer à l'acte, c'est-à-dire court-circuiter cette pensée, et on ne peut même pas en parler. Donc, c'est comme ça. Et donc, le dernier point, donc, dans deux semaines, c'est ce passage à l'acte, mais plus en appuyant un peu sur un passage à l'acte un peu spécial qui va concerner la violence, pour ne pas dire l'ultra-violence, dirigée d'une part éventuellement contre soi, donc l'auto-violence, l'auto-agression, qui fut traduit par le suicide finalement, et puis l'autre versant, c'est l'ultra-violence appliquée aux autres. Donc ce sont des passages à l'acte qui peuvent être irréversibles. Alors il y a eu tellement d'événements que vous les connaissez et qu'on peut essayer de raisonner dessus. Donc si vous voulez, voyons ce qu'on appelle en psychiatrie les troubles des conduites alimentaires, dont on donne simplement maintenant les initiales, c'est TCA, tout simplement, et que qui sont définis par un petit peu un instrument américain retraduit, c'est le DSM. Alors, bon, je vous parlerai du DSM-4, mais actuellement, celui qui est en vigueur, c'est le DSM-5. C'est peut-être encore pire. C'est un petit peu comme une flore ou une faune, si vous voulez, pour décrire les végétaux. On utilise une flore qui décrit tout simplement quelles sont les pièces génitales des végétaux, et puis pour les animaux, on décrit grâce à une faune. La même chose, on parle vaguement un peu du comportement des animaux à ce moment. Et bien là, le DSM-4 ou 5, c'est une description entomologique des humains. Alors bon, ça fait un petit peu bizarre, autant vous dire, pour les psychologues et psychanalystes qui contestent cette vision, mais bon, au tout début de la création de ce DSM, c'était tout à fait compatible pour une raison simple, c'est que tout le monde donne ses propres définitions et donc plus personne ne sait de quoi il parle. Ce qui fait que comme maintenant on a des études sur des grandes cohortes, on ne sait jamais si ce sont vraiment des sujets qui correspondent à ça. Alors donc la psychiatrie américaine avait décidé de constituer le DSM, donc c'est l'abréviation des études statistique en fin de compte. Et 1 et 2, ça allait encore, parce qu'on reconnaissait la psychiatrie, et en particulier la psychiatrie européenne et française. Et puis à partir de DSM-3, cette psychiatrie qui donnait du sens aux symptômes a été évacuée, quoi, en gros. Et donc, bon, maintenant, on s'en amuse, hein, parce que... Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas mon propos. Je vais vous donner donc les définitions, et puis ensuite, ben, un petit peu, on va soulever quelques lièvres, et puis au bout d'une heure, je pense que mon montage sera terminé. J'ai 56 vues à vous montrer, et donc il y aura une heure consacrée à vos questions et puis à des réponses éventuelles ou des éléments ou des précisions ou autres. Voilà, donc dans ces conduites alimentaires, il y a trois grandes catégories, quoi, enfin, deux principales, l'anorexie et la boulimie. Et puis il y a une troisième catégorie qui est un fourre-tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle des TCA non spécifiés. Mais, bien entendu, il y a beaucoup, beaucoup de choses, et ça va jusqu'à, par exemple, l'anorexie chez les nourrissons. Hein, parce que tous ces troubles se présentent aussi chez les enfants, en quelque sorte. Mais bon, ça, j'en parlerai pas, parce que là, on rentre dans la psychiatrie lourde. Il y a aussi le méricisme, qui correspond à avaler quelque chose, puis le ruminer, après l'avoir régurgité, puis le remâchouillé, etc., comme un mouton qui a brouté de l'herbe, et puis qui reprend quand il a un peu de temps. Et puis vous avez le pica aussi, bon, on ne va pas entrer dans ces détails, le pica, c'est ces enfants qui portent tout à la bouche, bon, alors ça c'est normal de tout porter à la bouche, mais quand il n'a de cesse que d'attraper des clous et des morceaux de peinture écaillés, etc., et se bourrer finalement c'est pas vraiment une conduite alimentaire, quoi. C'est qu'il y a des problèmes plus profonds. Donc on va rester simplement anorexie et boulimie, si vous voulez. Alors l'anorexie d'abord, puis ensuite la boulimie, et puis il y aura un troisième temps, mais je suis à peu près sûr que j'aurai pas le temps de le faire, c'est quelques éléments de thérapie. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, je vous lirai juste une petite page, mais bon, pour un peu changer du ronron qu'on lit un peu partout. Alors d'abord, pour l'anorexie, c'est une maladie qu'on appelle mentale. Au départ, on la pensait hystérique, mais elle est finalement assez illustre. Alors, anorexie, c'est orexie qui veut dire l'oralité, c'est-à-dire le manger, quoi, finalement. Et an, c'est le a privatif en grec, donc c'est l'impossibilité de manger. Mais toujours, on rajoute anorexie mentale, parce que c'est vraiment des forces physiques, psychiques, je veux dire, qui empêchent cet acte de consommation. Alors, les anorexies sont connues depuis longtemps, et il y en a un certain nombre qui sont assez célèbres. En voici trois, là, que vous devez connaître, probablement. Donc, Sainte-Catherine de Sienne, qui est née en 1347, par exemple. Hein, elle partait dans ses délires mystiques, bon, laissons-la tranquille. Une autre, qui est plus proche de nous, que tout le monde connaît comme Élisabeth, c'est-à-dire Sissi, et qui était impératrice d'Autriche, par exemple, qui elle aussi était manifestement anorexique. Et enfin, une autre qui est très célèbre, c'est une philosophe, Simone Weil, qui donc, on va dire, était illustre pendant la Résistance, surtout, et qui est morte d'un autre problème que ce qu'on pourrait penser, de maladie de tuberculose, parce qu'elle n'a pas pu se faire soigner et qu'à l'époque... Voilà. Bon voilà, alors ça c'est simplement un petit peu ce que l'on sait depuis longtemps, et quand même la description par un aliéniste, un psychiatre, a été faite en 1875. C'est le premier cas qui a été décrit et qui donc a utilisé une photo qui existait dans son milieu déjà depuis quelques années. Il se trouve que cette jeune fille s'appelait Miss A. Bon, alors ça tombe bien parce que A comme anorexie, c'est tout à fait indiqué. Et là, William Girl, dit voilà, dans cette maladie, il y a une triade, et c'est les trois A. Voilà, alors il y a l'anorexie, l'amaigrissement et les aménorrhées qui vont toujours de pair. Voilà, bien sûr, qui ont été vus chez cette personne, et puis qui ensuite a été retrouvé chez les autres jeunes femmes qui étaient atteintes par ce syndrome en quelque sorte. Hein. Donc, je dis jeunes femmes parce que, bien sûr, c'est souvent au moment de l'adolescence que le problème se pose. C'est-à-dire, tout va bien. On va le redéfinir un peu, tout va très bien dans l'enfance, et puis au moment de l'adolescence, il y a bien sûr des remaniements hormonaux, c'est la crise pubertaire, en un mot, qui vient en quelque sorte modifier un certain nombre d'éléments physiologiques et qui se traduisent par des difficultés psychologiques qu'on va essayer de... Donc retenez simplement la triade qui est toujours valable, qui est toujours le... et qui s'explique. Hein, de l'anorexie, on passe à l'amaigrissement, et de l'amaigrissement, quand on a atteint la barre des 35 kilos, en quelque sorte, la jeune femme ou la jeune fille a atteint cette barre de 35 kilos, et bien les règles sont enrayées, et donc... bien entendu, ça pose d'autres questions. Alors voilà, donc, comment on l'appelle, hein? Bon, dans la psychiatrie, on a encore l'habitude de donner le nom latin. Je veux dire, ça rappelle tellement les flores et les faunes que pour un biologiste, ça ne l'étonne pas du tout. Anorexia nervosa. C'est le nom qui lui avait été donné. Donc nerveux, c'est comme maladie nerveuse, c'est-à-dire du système nerveux. Et mais quand on dit système nerveux, c'est que... c'est simplement le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, etc. Mais que, bien entendu, sous-entendu, on a l'idée que c'est quand même psychique, quoi, hein, puisque le cerveau est quand même l'organe qui, j'ose pas dire sécrète l'esprit, mais en gros, l'esprit émerge du fonctionnement du cerveau. Donc, alors, en français... on dit, pour garder cette idée de anorexia nervosa, on garde le terme de anorexie mentale. Du coup, c'est différent de l'anorexie tout cru, parce qu'anorexie tout cru, c'est pas du tout un trouble psychiatrique, c'est un problème biologique. Voilà, alors donc, c'est donc le DSM-4 que je prends comme référence, puisque c'est celui que les psychiatres utilisent la plupart du temps, même s'ils sont critiques, ça n'empêche qu'il y a un certain nombre de vérités premières, de définitions pour bien qu'on soit d'accord. Refus de maintenir le poids corporel au-dessus de la normale minimum. Et en gros, par rapport à une jeune fille d'un certain âge, d'une certaine taille, on peut déterminer à peu près le poids idéal, en gros. Eh bien là, on parle d'amaigrissement lorsque le poids est inférieur et atteint le terme de 85%. C'est-à-dire, bon, il manque 15% par rapport à ce poids. Or, si on prend la fourchette basse, hein, vous savez que l'indice de masse corporelle, c'est entre 18 et 25, en gros. Donc, elles sont déjà à 18. Alors, si vous enlevez encore 15%, ça veut dire 15, quoi. Hein, quelque chose comme ça, bien entendu. C'est-à-dire qu'elles sont assez squelettiques. Deuxième chose, à côté de cet amaigrissement, il y a une peur intense de prendre du poids ou de devenir grosse, malgré une insuffisance pondérale. Voilà, c'est-à-dire, bon, on sent qu'il y a quelque chose dans l'image du corps qui est en train de se mettre en place où elle perd son sens critique. On a beau lui dire, mais non, t'es mince, t'es ci, t'es ça. Non, alors elle pinaille sans arrêt, il faut calculer combien pèse la tomate, combien pèse la doucette, combien pèse, je ne sais pas quoi, enfin, elle passe toute son énergie, et elle en a beaucoup, à essayer de contrôler cette nourriture, la quantité et la qualité. Voilà, alors là, on peut dire que ça devient obsessionnel, quoi. Voilà, alors elle est toujours en train de se regarder dans le miroir, toujours en train de se peser, toujours en train de se mesurer, et ça va jamais, finalement. Elle est toujours énorme. Voilà. C'est-à-dire, elle est comme un haricot vert, et encore dans la fourchette, et en fait, elle se voit comme un éléphant. Troisième point, donc, altération de la perception du poids et de la forme de son propre corps. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Cette dysmorphophobie, je vous montre une image qui le caractérise un peu. Ça va tellement loin qu'on peut faire passer des tests. Alors là, les cognitivistes en font beaucoup, et c'est toujours extraordinaire parce que ces jeunes filles, on leur demande de déambuler dans un espace, et à un moment, elles se retrouvent devant une porte. Et on lui demande de franchir la porte. Elle reste bloquée, elle ne la franchit pas. Elle pense qu'elle ne va pas passer par la porte. C'est-à-dire, bon, elle se voit trois fois plus large qu'elle n'est. Puis, etc. Bon, vraiment, cette perception de la forme qui n'est plus là. Donc, l'image de soi est déformée. Et en fait, elle a une vision dilatée de sa propre morphologie. Et donc, du coup, il y a une influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l'estime de soi, ou, une autre version, c'est le déni de la gravité de sa maigreur. Voilà, c'est-à-dire, bon, vraiment, elle fait une fixation sur le fait qu'elle est trop grosse, et elle ne voit pas qu'elle maigrit à vue d'œil, que ça ne peut pas durer longtemps. Biologiquement, on atteint des limites. Alors, troisième point, donc, c'est l'aménorrhée. Donc c'est l'arrêt des règles pendant au moins 3 cycles consécutifs chez une femme qui a déjà eu ses règles, en quelque sorte, donc qui est post-puberte, en quelque sorte. Voilà, donc l'aménorrhée, c'est le terme médical, hein, mais bon, l'arrêt des règles marche aussi bien, c'est-à-dire pas d'ovulation, en gros. Voilà. Pas d'ovulation, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas se reproduire, donc elle ne pourra pas être mère. En clair, c'est ça les enjeux. Bien sûr, c'est ce qu'elle cherche probablement, mais elle ne le sait pas, quoi, bien entendu. Il ne faut pas même le dire, mais c'est pourtant ça. Alors, là-dedans, le DSM-4, bon, après donc, la tradition de psychiatrie, ben, distingue 2 types d'anorexie. Le premier, c'est le type restrictif. C'est-à-dire, pendant l'épisode d'anorexie mentale, parce qu'il y a des bouffées comme ça délirantes, hein, des fois ça se calme un petit peu, mais enfin, je ne veux pas qu'elle reprenne vraiment son appétit, hein, mais pendant l'épisode d'anorexie mentale, le sujet n'a pas de manière régulière présenté de crise de boulimie, ni recours au vomissement provoqué, ou à la prise de purgatifs. Alors là, prenons les purgatifs que les anorexiques utilisent avec beaucoup de presque de plaisir, hein, de jouissance en tout cas, des laxatifs, des diurétiques, des lavements, des anorexigènes, c'est-à-dire des coupe-faim. Voilà, alors donc, quand on dit type restrictif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne mange presque pas, mais qui n'est pas sujette à la boulimie, c'est-à-dire faire le contraire, c'est-à-dire vous pouvez avoir une période, donc ça laisse entendre que d'autres l'autre type et de ce type, comme on va le voir. C'est-à-dire, vous avez alternance de crise d'anorexie, où il n'en mange plus rien, puis ensuite, on se rue sur la nourriture, et quand on se rue sur la nourriture, et que on va avoir le souci, quelques instants plus tard, de son poids qui va forcément augmenter, alors à ce moment, on pratique tous les comportements qui permettent d'aboutir, de recracher ce qu'on vient de manger. Alors bon, on se met les doigts dans la gorge, comme les Romains au moment où ils faisaient des banquets, les gueuletons, hein, en gros, pour pouvoir recommencer. C'est tellement bon de recommencer, mais là, elle n'a aucun plaisir à avoir mangé, bien entendu, puisqu'on est dans le cas de la boulimie, c'est en dehors du plaisir. Voilà, donc, type restrictif, hein, c'est-à-dire c'est, je le dirais en français, anorexie mentale sans suscripto. C'est-à-dire, bon, c'est que simplement restreindre les entrées et il n'y a jamais de tentative régulatrice qui pourrait faire l'inverse. Alors, le deuxième type, donc, c'est type d'anorexie avec crise de boulimie et de vomissement ou de purgatif, l'un ou l'autre, mais bon, là, chacun a ses techniques privilégiées. Donc, pendant l'épisode actuel, le sujet a de manière régulière présenté des crises de boulimie et ou de vomissement provoqués ou de prise de purgatif. Voilà, donc ça fait deux choses bien différentes et ces choses bien différentes, ça laisse entendre que les causes sont un peu différentes. Alors bien sûr, c'est toujours dans la même sphère, il n'y a pas besoin d'être trop savant pour savoir que c'est pas une psychose. Ça peut toucher un peu à certaines névroses, comme j'ai dit, il y a un petit peu quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose d'obsessionnel, à quelque chose d'hystérique, mais pas tout à fait. Donc, en général, ce sont des sujets qui sont plutôt situés, comme les boulimiques, comme les alcooliques, entre les deux, entre psychose et névrose, c'est ça qu'on appelle les états limites, qui peuvent procéder de l'un et de l'autre, et c'est pour ça qu'on a des critères qui ressemblent à l'un et à l'autre, mais en gros, ils vont quand même mieux que des schizophrènes ou des paranoïaques. Voilà, c'est pas au même degré de... Et que donc ça, bien sûr, en tout cas pour un freudien, tout de suite, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans le développement psychique à une date pas aussi précoce que dans le cas de la psychose, mais un petit peu plus tardive, que la psychose, mais quand même, ils n'ont pas pu se développer jusqu'à atteindre le stade de la névrose. Voilà. Ils n'ont même pas pu tout à fait atteindre le stade où on est un sujet très simple, pas de soucis d'aucune sorte, ou bien on trouve les moyens de faire des thérapies qui vous sortent de l'impasse. Voilà. Donc, ça laisse déjà entendre, si j'utilise ce terme, ça laisse déjà entendre que derrière, on est en train de penser que au cours du développement, ça s'est bien passé, bon, sur tous les plans, puis il y a un petit truc qui a coincé possiblement. Alors bon, les cognitivistes rigoleraient, quoi, bien sûr, diront, bah, oui, bien sûr, j'ai toujours inventé le fil à couper le beurre, mais voilà, c'est en tout cas la vision qu'on peut avoir. Alors donc voilà notre brave jeune fille, là, qui est à table, et qui se défend avec sa fourchette et son couteau contre toute intrusion de vouloir lui en rajouter dans son assiette. Donc là, elle a vraiment sa serviette bien tendue, bien propre, bien vide, quoi, en gros. Et puis, c'est un schéma humoristique qui laisse entendre que... Bon, voilà, elle est omnubilée par son centimètre, là, son maître de couturière, qui sa taille, qui ses fesses, qui ses hanches, qui... des seins, je sais pas quoi, il faut que ça soit plat, voilà, c'est la seule qui est vraiment le modèle idéal, quoi, plat, en gros, voilà, en guise de plat, c'est vraiment le poisson plat, quoi, et puis, la dysmorphophobie, hein, bon, ben, le nom le dit, hein, dys, ça veut dire quelque chose qui dysfonctionne, hein, qui n'est pas tout à fait correct. Et puis morpho, c'est la morphologie, bien sûr, et phobie, c'est la peur d'avoir une morphologie qui est discordante, en quelque sorte. Voilà, alors là, bon, on voit bien que Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle, la plus maigre possible, et puis en fait, boum, on voit que ça n'est pas le cas, quoi. Voilà, elle est toujours déçue par son image, en un mot, et donc elle va prendre la résolution d'aggraver encore le problème. Alors, quelques caractéristiques de cette anorexie, d'abord le premier point, c'est refus de nourriture, donc d'une façon générale, la quantité, c'est je picore. Voilà, hein, c'est je veux bien, bon, d'accord, on se retrouve au restaurant et puis c'est ah, moi juste une salade. Hein, voilà, tout de suite vous avez déjà les oreilles qui se pointent, tu vois, puis ah, bah de l'eau fraîche, voilà, la vôtre, éventuellement un coca, et puis une petite tige, et puis ça y est, quoi. Voilà, elle a fait son repas, un yaourt, si vraiment vous insistez. Alors, donc, bien sûr, elle développe une véritable phobie par rapport à certains aliments, alors tous ceux qui sont sucrés et ceux qui sont gras, bien sûr. Donc, ben, il ne reste plus que les salades, je vous dis, et encore, sans sauce. Hein. Alors, bien entendu, elle a quand même une nostalgie, quoi. Et donc, ben, elle va arpenter les rues de la ville, parce qu'elle est en ville, et elle va tomber en arrêt devant certains magasins. En règle générale, ce sont des magasins de nourriture alimentaire. Et les pâtisseries ont plutôt son engouement, quoi, en quelque sorte. Voilà, alors elle déguste des yeux les gâteaux, donc elle n'a pas besoin de les manger, quoi. Voilà. De même, quand elle est dans la famille, elle n'a de cesse que de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire elle va faire les gâteaux, et puis ensuite elle n'a de cesse que de les découper les gâteaux, et puis elle va bourrer les autres, en gros, c'est-à-dire elle se substitue à la mère nourricière, en quelque sorte, mais elle ne touche pas. Voilà. C'est-à-dire, à une époque, on le décrivait comme étant le syndrome du pélican. Non, c'est-à-dire, je vous aime tellement que je vous donne même mes entrailles à bouffer, quoi. Voilà. Bon, ben c'est vraiment ce qu'elle reflète comme comportement. Et donc, ben, bien sûr, l'obsession de prendre du poids et de perdre la ligne, et donc chaque fois, c'est un cran de plus, de plus en plus féroce, en un mot. Voilà, c'est-à-dire, bon, il y a vraiment déjà une violence envers elle, qui s'exerce, et puis un masochisme derrière, quoi, hein, là, vraiment. Bon, elle aime que ça fasse mal, quoi. Et en tout cas, on peut émettre l'hypothèse qu'elle ne jouit pas de la nourriture, elle jouit de la tension qu'exerce la faim sur son tube digestif, son estomac, ou je ne sais quoi, et cette douleur lui suffit, alors que d'autres s'empiffrent, alors, tout en restant raisonnable, hein, aime les gueuletons, enfin, aime les machins, comme on dirait à Lyon, elle, pas du tout, elle les fuit. Alors, bien sûr, ça comme conséquence, ben, que quand ça dure pendant un an ou deux, ben, c'est la malnutrition, et alors là, il y a toute une cascade de problèmes qui se révèlent, quoi, hein, c'est-à-dire perte de cheveux, elle a toujours froid. Et ayant toujours froid, bien entendu, elle met un pull, puis deux, puis trois, puis une doudoune, puis je sais pas quoi. Alors du coup, ça ne paraît pas qu'elle est cadavérique. Hein, mais elle est toujours en mitouflée, puis en tirant les manches, hein, voilà, et puis les moufles par-dessus, parce qu'elle caille, puisqu'elle on la voit par transparence, presque. Et donc du coup, une fatigue. Et des malaises. Et bien entendu, bah, le tube digestif, il est un peu plus, il a besoin de fibres, hein, il a besoin de beaucoup de choses, enfin, il faut quand même, pour avoir le péristaltisme, il faut que ça prenne appui sur les aliments. On est câblé pour quand même être omnivore, manger un peu de tout, quoi, équilibrer en plus, plus des vitamines, plus des oligo-éléments que vous avez, que si vous avez une des portions équilibrées, quoi, en gros, enfin, on va dire, un régime équilibré. Or, elle est complètement déséquilibrée, donc du coup, bah, les constipations, les diarrhées hémorragiques. Et puis, alors, bien sûr, il faut aussi voir toute la physiologie, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Hypercholestérolique, quoi, en gros, déshydratation, bradycardie, c'est-à-dire le cœur peut plus suivre, quoi, il est plus en, le pouls est très très lent, quoi, hein, fatigue, bien sûr, elle a plus d'énergie. Décalcification, ostéoporose, chute de la tension artérielle, etc. Enfin bon, voilà, ça va à volo et bien sûr, assez souvent, ça peut se solder par le décès, quoi, en gros. Alors, j'ai lu il n'y a pas très longtemps le chiffre, parce que ces chiffres sont cachés, on dirait. J'ai lu le chiffre de 15 000 morts par an. Bon, alors c'est énorme, mais je sais pas, prenez-le avec des pincettes, vérifiez-le si vous savez comment le trouver. En France, on a la maladie du secret, quoi. Il y a secret médical, il y a secret professionnel, il y a secret. Et du coup, pour des choses comme ça, ça devrait être placardé partout. Ou alors, ça veut dire qu'on laisse pisser, quoi. Hein. Ben non. Je peux prendre appui que, je vais le redire un peu plus loin, mais je pourrais prendre appui que sur des chiffres aux USA. Parce que là, on publie un peu plus. Aux USA, l'anorexie est la troisième cause de mortalité après je ne sais plus lesquels, les trois je vais les retrouver, c'est l'anorexie plus deux autres que je vais vous donner. Ah ben les voilà peut-être là, voilà, non, plus. Alors donc quand on a des problèmes aussi gravissimes. Alors bien sûr, toutes les jeunes filles anorexiques ou jeunes femmes ou femmes anorexique. Alors, je dis femme parce que il y a une telle majorité de femmes par rapport aux hommes, c'est le rapport de 1 à 10. Hein, donc, 90% sont des femmes. Donc, forcément, on parle au féminin, là, à ce moment. Pour essayer de comprendre un peu comment ça se présente et comment ça peut évoluer, en fait, des études statistiques sur des grandes cohortes, enfin, sur un grand nombre de personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. Alors, ça, c'est très intéressant d'un certain point de vue. Alors, c'est pas de la clinique, hein, mais ça, c'est plutôt des statistiques, la sociologie. Et ça permet de comparer, après, dans les différentes cultures, et on commence à voir des choses qu'on peut pas voir autrement par l'épidémiologie. Alors, donc, l'épidémiologie de l'anorexie, donc, trouble essentiellement féminin. Donc, 90% des sujets sont de sexe féminin, quoi. Aux USA, voilà, c'est la troisième maladie chronique chez l'adolescente, après l'obésité. Voilà, c'était les deux maladies chroniques. Donc, toujours aux États-Unis, la prévalence est de 1%. Chez les jeunes filles de 17 ans. Voilà, 1%. Donc, oui, prenez 100 filles, vous êtes sûr qu'il y en a une. 100 filles qui ont 17 ans, vous êtes sûr qu'il y en a au moins une qui est anorexique. Et cette étude montre qu'il y a deux pics et qui sont toujours en phase avec l'adolescence. Soit au début de l'adolescence, au moment où l'adolescence commence, bon, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, qui commence là aussi de façon très variable, hein, de plus en plus précoce. Traditionnellement, c'était, mettons, 13-18 ans, et puis maintenant, c'est plutôt 12-10, même on parle de 8. Bon, puis ça continue jusqu'à 35. C'est en fait bon, une fermeture éclair, si vous voulez. Donc, au début, et puis, deuxième pic, à la fin de cette adolescence. Voilà, donc il y a deux, l'ouverture et la fermeture des conflits, en fin de compte, qui commencent à se présenter. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que plus l'anorexie commence précocement, plus elle va être grave. Et donc, ça veut dire que l'issue peut être fatale si on ne fait rien. Et c'est pour ça que les parents s'inquiètent et qu'ils ont raison de s'inquiéter et qu'à un moment, ils sont débordés et que, donc ils font appel, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'on doit faire dans ces cas-là, ils font appel aux professionnels qui sont spécialisés, c'est les psychiatres, quoi, en gros. Et donc, ça veut dire une hospitalisation. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait juste ou pas, mais en gros, dans la tradition, en tout cas française, c'est la plupart du temps, on hospitalise la jeune fille, et puis on demande de couper avec la famille, et plus précisément envers la mère. Voilà. Comme si, on l'a dit souvent, je m'en suis défendu, par rapport à l'alcool, hein, on ne va pas charger la mère, mais il n'empêche que, voilà, il y a une relation qui est un peu spéciale avec la mère et que, au moins pendant peut-être 8 jours, 15 jours, un mois, je ne sais pas, ça dépend et du psychiatre, et de l'équipe, et de la jeune fille, eh ben, on demande de pas se voir, pas de visite, rien du tout. Voilà, et que du coup, après, au bout d'un moment, cette relation peut-être se normaliser. Alors, en France, on a une étude sur un lycée, en Meurthe-et-Moselle, je crois, qui va porter sur 35 000 élèves. Je pense qu'il y a autant d'élèves dans ce département, mais enfin, en gros, c'est par là-bas. Et alors, on s'est aperçu que la préoccupation corporelle était présente chez un tiers de ces jeunes filles. Et que les conduites de restriction appuyées par des jeûnes assez fréquents et longs pour 20% d'entre elles. Voilà, donc ça veut dire que il y a ce souci de préoccupation corporelle et de restriction, hein, entre 33% et 20%. Alors, l'épidémiologie donne encore un autre élément qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que c'est un trouble polyfactoriel, c'est-à-dire qu'il y a une myriade de facteurs qui peuvent rendre compte de ce trouble de la conduite alimentaire, de l'anorexie, là, bien sûr. Alors, ce qu'on sait, c'est que il peut y avoir des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que c'est dans l'environnement que quelque chose se passe. Bon, alors, je ne sais pas très bien pour l'anorexie, mais en tout cas, on pourra le voir avec la boulimie. Là, c'est criant, quoi, parce que là, on peut faire des études extraordinaires. Alors, je vous le dis maintenant, parce que je vois que l'heure a encore tourné. Elle est incorrigible, hein, c'est pas possible. Alors, je prends l'exemple pour la boulimie, c'est terrifiant. Vous aviez des populations amérindiennes qui étaient des guerriers, machin, je sais pas quoi, des chasseurs, qui étaient toujours super musclés et minces comme ça. Depuis qu'on les a parqués dans des réserves, Coca-Cola et McDonald's et Casino, vous les voyez comme ça. Bon, ils n'ont pas changé, ils sont endogamiques, donc c'est pas une question génétique, ils sont sur le même territoire de leurs ancêtres, rien n'a changé, si ce n'est la nourriture, quoi, en gros, voilà. American way of life. Bien sûr, familiaux, les facteurs. Hein. Bien sûr, c'est dans une famille. On va nous dire c'est génétique. Pourquoi pas, bien sûr. Mais en même temps, c'est les mêmes habitudes alimentaires. C'est-à-dire, si vous faites du gras, de porc et de tout un tas de trucs qui sont frelatés, c'est sûr que vous allez prendre du poids. Mais inversement, s'il y a tout un tas de choses pour l'anorexie, on peut imaginer la même chose. Et enfin, socioculturel. Alors, socioculturel, je vais mettre un sparadrap, puis je vais vous passer simplement les photos, parce que sinon... Voilà, donc retenez ça. Hein. L'environnement, des mœurs familiales ou des gènes familiaux, possibles, et enfin, des facteurs socioculturels qui vont en quelque sorte modifier l'image de soi qu'on peut avoir. Alors, pendant des millénaires, l'image de soi qu'on pouvait avoir, les imagos, en gros, hein, pour prendre un mot un peu spécial, les imagos parentaux, c'était les parents qu'on avait sous le nez, quoi. Et maintenant, nos parents, c'est des croutants, des croulons, des croulants, des je ne sais quoi, ça c'est le terme ancien. Non, c'est des vioques. Et donc, bien sûr, on a fait des greffes, des implants virtuels, et donc ces implants virtuels vous cassent la tête probablement. Voilà. Alors, heureusement, il y a eu des réactions. Et donc, alors la caractéristique de l'anorexie, là aussi, c'est le perfectionnisme. Alors bon, il faut tout contrôler. Je vous l'ai dit, au gramme près, combien de feuilles de salade. Mais ça va dans tous les actes que la personne fait. Bien sûr. Hein, et donc, en particulier à l'école, elles sont perfectionnistes, c'est-à-dire, elles vont faire un travail scolaire extraordinaire, et du coup, le contre-coup, parce qu'elles travaillent, elles sont brillantes, quoi, en gros. Et donc, c'est les chefs de classe, en gros, hein, pour faire simple. Alors, bien entendu, les chefs de classe sont toujours brimés, comme vous savez, par les autres, parce que, bon, forcément, quand il y a quelqu'un qui a tout compris et qui a toujours réponse à tout, ça veut dire que, par différence, on paraît complètement stupide, et donc, du coup, on va lui faire des croche-pattes en tout sens, hein, bien sûr. Donc, et ce sont aussi, donc, des personnalités, états limites, surtout pour les anorexiques, plus que pour les boulimiques. L'adolescente est sous-tendue par la puberté. Donc, là, bien sûr, c'est au point de vue hormonal et tout un tas d'analyses montrent que c'est une phase critique de la maturation physique et psychique, bien sûr, hein, c'est les remaniements, on ne peut pas tricher, là, c'est-à-dire, c'est la puberté, donc, se traduit par une adolescence, et donc, ça veut dire qu'on va passer de l'enfance au stade adulte, en gros. Et donc, un adulte, par définition, c'est quelqu'un qui se reproduit. Et que donc, du coup, bien sûr, il y a la sexualité qui va monter aux manettes, quoi. Du coup, alors, non seulement on a des atouts de séduction, mais en plus, il y a des risques de se reproduire en un mot. Et donc, beaucoup d'éléments montrent que, justement, l'élément déclencheur, c'est bien souvent le regard des hommes sur ces jeunes filles. C'est-à-dire, elles changent, elles sont convoitées, en clair, elles n'ont pas les éléments pour peut-être s'en défendre. Et puis bon, là aussi, la mode fait que, donc les facteurs socioculturels, l'effet des pères, c'est-à-dire des pères IRS, hein, c'est-à-dire des semblables, là aussi, si on n'a pas le t-shirt ad hoc, je vous en montrerai un, ça ne peut pas faire, quoi. Donc, du coup, il y a une pression extraordinaire de ce monde de l'adolescence qui vient, là aussi, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, je parle peut-être de façon elliptique, mais les tenues vestimentaires dont sont habiller les jeunes filles en question qui sont sensibles au regard des hommes, mais dans l'effroi, hein, non pas dans le... ce sont justement des tenues qui sont assez excitantes, quoi, en gros, pour faire simple, et pas chercher là non plus, mais il faut reconnaître et parler des choses si on veut les comprendre. Alors, encore des éléments, c'est que ces troubles du comportement alimentaire sont fréquents dans les milieux qui favorise un certain nombre d'orientations professionnelles, voilà, et qui donc milieu qui idéalise le corps. Voilà, alors par exemple, si vous avez les parents qui sont fascinés par la danse, ou bien par la vie people des mannequins, ou bien tout ce que vous pouvez imaginer des sportifs de haut niveau, Alors ça, c'est tout compatible avec les anorexiques, bien sûr. Hein. Surtout à une époque, là, dans les années 70, ça a été assez prodigieux. Et donc, du coup, la jeune fille reprend à son compte, mais vraiment sans trier, on pourrait le voir si on pouvait aller plus loin, elle reprend tout ce qui est dit, c'est une vraie éponge par rapport à ça. Et du coup, ça va avoir des conséquences. Alors, la dynamique familiale est impliquée aussi dans ces troubles. Les familles d'anorexiques sont plus anxieuses, sont dans la maîtrise et véhiculent une sorte d'idéal, entre guillemets, qui est très contraignant. Voilà, c'est-à-dire, ils sont exigeants. Voilà, tu dois être la première, tu dois avoir de meilleures notes, tu dois machin. Enfin, il y a tout le temps à se dépasser, à se surpasser. On est dans l'extrême de l'exigence. Et voilà, il faut faire, Normal Sup, en gros, hein, ou bien Sciences Po. Sinon, c'est qu'une merde. Bon, ben, pour quelqu'un qui est déjà perfectionniste, c'est épouvantable, quoi. Alors, là aussi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que beaucoup de jeunes filles anorexiques ont eu des problèmes avec leurs proches, on va dire. On peut même presque dire d'abus sexuels. Alors, on ne peut pas dire que c'est tout, mais il y a toujours peut-être une ambivalence, une ambiguïté ou quelque chose qui est à voir d'un peu plus près. Alors, si on éclaire un peu ces facteurs socio-culturels, l'image de la femme dans les médias bouleverse les représentations de l'idéal féminin, entre guillemets, c'est peut-être un terme qui est un peu ancien, mais enfin bon, chez les hommes et chez les femmes. Voilà, donc c'est l'influence des médias, là, qui a été mise sur la sellette, et puis ça a été tellement loin, parce qu'on a vu, hein, depuis les années 60, hein, qu'on appelait avant la réclame, est devenue la publicité, et donc là, ça poussait à la roue de telle façon que en 2007, hein, il y a plusieurs députés qui ont fait des projets de loi pour bloquer un certain nombre de choses. Bon, les décrets n'ont pas été déposés, je crois, mais par contre, c'est par l'Italie et l'Espagne qu'il y a eu des mesures draconiennes, et heureusement, ça retentit sur presque toute l'Europe. C'est bien sûr la question des mannequins. Je vous le montre en image. Les défilés de mode et la publicité ont été impliqués dans cette construction artificielle délirante. La femme est un porte-manteau et un objet de consommation. Voilà, ça, bon, il n'y a pas de... C'est pas trop difficile à l'intégrer. Donc cet objet virtuel négationniste de la biologie et de la reproduction sert de modèle pour les adolescentes. Et plusieurs gouvernements ont édicté des mesures contre ce mouvement pédophile. C'est le style Lolita, hein, en gros, pour prendre Nabokov comme modèle sans critique, mais il n'empêche que ça définit bien qu'est-ce que ça signifie. Alors voilà un petit tableau de l'évolution de cet idéal féminin de la préhistoire à nos jours. Alors voilà, il y a fort longtemps, bien sûr, 24 000 ans avant Jésus-Christ, la Vénus de l'Espugne ou celle de Willendorf. Alors plus près de nous, la Vénus capitoline. Puis encore beaucoup plus vrai que nous, voilà, la Vénus au miroir. Alors Vénus, c'est bien parce que c'est quand même la déesse de l'amour, donc ça laisse entendre que l'artiste a quand même un idéal et que donc bien sûr ça dit quelque chose. Pas la peine de trop pérorer. Voilà, Vénus et Adonis, 1635, Rubens. Et puis beaucoup plus près de nous, les trois grâces de Mayol. Ah bon, c'est quand même assez potelé. Alors, encore plus près de nous, Niki Saint-Phal, avec ses trois grâces, les nanas, en gros. Botero, alors lui, il a carrément passé turbo. Et puis, bon, dans les années 70, en 75 exactement, ben voilà, il y a un mannequin qui s'appelle la brindille, enfin qu'on appelle la brindille, qui a 15 ans, et c'est Kate Moss. Voilà, alors là, bien entendu, là, ça a commencé à faire des ravages, parce que alors là, c'est, elle était très jeune, mais donc vraiment maigre, et donc forcément, c'était l'idole d'une classe d'âge, en quelque sorte. Alors voilà, les années 90, vous reconnaissez Inès et Naomi. Je pense. Et puis alors les années 2000, là, bah, vous le connaissez encore, c'est encore son règne, hein, la mère Charlize. Bon, donc là déjà, les squelettes ont déjà été écartés en quelque sorte. Peut-être qu'à titre privé, il y a peut-être encore des séances de photos ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les modèles qui sont proposés dans la littérature et les magazines féminins sont un peu différents. Alors, bien entendu, entre-temps, des sites internet se sont constitués et il y en a plusieurs catégories. Donc, bien sûr, il y a les pro-ana. Donc, pro-ana, ça veut dire qui est pour l'anorexie, en prenant anorexia et en prenant les deux premières lettres et la dernière, ça fait ana. Et puis, bien entendu, il y a eu l'inverse, les pro-mia, puisque la boulimie, c'est encore un autre terme, mais mia permet de le retrouver. Et puis ensuite, bien sûr, heureusement, dans cette réaction contre ces modèles de mode, on va dire, aussi bien entre le cinéma et les défilés de mode et autres, les anti-pro-ana. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais... Alors voilà, par exemple, c'est le mouvement pro-ana, qui est donc celui qui est un peu spécial. Donc ça vient des États-Unis, c'est donc des traductions, en gros, et qui prêchent pour l'anorexie, voilà, qui font vraiment du prosélytisme et qui changent la donne et que les adolescentes recherchent et puis s'identifient complètement. Alors je vous donne juste quelques phrases, malgré que le temps est presque écoulé. Ce mouvement pro-ana rassemble des internautes qui prétendent l'anorexie mentale comme n'étant pas une maladie, mais plutôt un art de vivre, en gros. Le mouvement pro-ana est le miroir de pro-mia, pour boulimia, en latin, comme on va le voir. Donc mia, c'est la finale qui est prise, qui a quand même moins d'adhérents, hein, parce que bon, les boulimiques s'envoient, quoi, hein, pour arriver à garder leur ligne, et donc du coup, il n'y a pas besoin de les convaincre. Les sites sont une source de motivation pour les autres membres et les poussent à persévérer dans leur perte de poids en imposant des commandements, lettres de motivation ou insultes signées Anna ou Mia. Voilà, alors, voilà les 10 commandements, je vous les lis quand même parce que ça vous donne la tonalité de ce qui se passe sur Internet et qui est reçu 5 sur 5. Hein. Si tu n'es pas mince, tu n'es pas attirante. Être mince est plus important qu'être en bonne santé. Tu dois t'acheter des vêtements étroits, couper tes cheveux, prendre des pilules diurétiques, jeûner, fais n'importe quoi pour mincir. Tu ne mangeras point sans te sentir coupable. Tu ne mangeras point de nourriture calorique sans te punir. Tu compteras les calories et tu restreindras tes apports. Ce que dit la balance est plus important que tout le reste. En particulier tes parents, bien sûr. Perdre du poids est bien, en gagner est mauvais. Tu ne peux jamais être trop mince. Être mince, c'est le signe d'une véritable volonté qui entraînera le succès. Alors, bien sûr, c'est accompagné de beaucoup d'images, voilà, là, les images de fées, d'elfes, je ne sais quoi, et puis, bien sûr, tous les mouvements qui permettent de dégurgiter, quoi, en gros, hein, toutes les... Alors, bien sûr, il y a eu les contre-réactions qui ont pu s'établir. Alors, voilà les images qui accompagnent. Là. comme vous pouvez le voir, c'est vraiment les camps de concentration, en gros. Hein. Alors voilà un exemple que vous devez connaître, Isabelle Caro, donc, qui s'est exposée, elle était mannequin, et puis vraiment d'une maigreur épouvantable. Alors elle a écrit un livre juste avant de mourir, à 30 ans, s'appelle « La petite fille qui ne voulait pas grossir ». Et elle a donc posé pour une campagne contre l'anorexie, pour Nolita, je vais vous la montrer tout de suite après. Donc voilà ce qu'elle dit sur cette campagne, là, ces photos. « Cette photo sans fard et sans maquillage ne met pas en valeur. Le message est fort. J'ai du psoriasis, la poitrine qui tombe, un corps de personne âgée. » Voilà, c'est-à-dire, bon, c'est vraiment... Là, c'est pas par narcissisme qu'elle le fait. C'est parce qu'elle sait qu'elle risque de disparaître et qu'elle n'a pas envie que les copines fassent pareil. Alors, voilà son visage, hein, et son corps, en fin de compte, hein, de point de vue. Et voilà la campagne qu'elle a faite. Donc, ça doit être 99, je crois. Hein, no anorexia. Alors, bien entendu, ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans les magazines, on voit toujours des photos de mannequins avec la peau très lisse, quoi. Pas de peau d'orange, hein, ni de rien du tout. Et en fait, tout est fait par trucage. C'est-à-dire, bon, elle a une jolie peau, ça, je dis, sont pelés et tout, comme vous voulez, mais Photoshop est là pour que vraiment ça donne une pêche d'enfer, quoi, en gros. Et donc, voilà un exemple de ce que ça donne. Voilà, vous avez une jeune fille, là, bon, bien proportionnée, voilà ce que vous pouvez obtenir, voilà, simplement en manipulant deux clics, quoi, en gros. C'est du morphing, hein, en gros. Alors voilà, l'autre exemple, hein, c'est... Une fille qui est déjà très mince, ben là, vous lui mettez que la peau sur les os. Alors voilà là, ce que je laissais entendre par la fashion dead, hein, c'est-à-dire cette mode qui sous-tend des pulsions mortifères plus que des pulsions de vie. Hein, que là, vous avez une jeune fille, bon, les pulsions de vie sont assez manifeste. Bon, bien sûr, il y a un peu juste le t-shirt, quoi, bien sûr, parce qu'on voit éventuellement un piercing ou pas, quoi. Bon, ça, c'est le but du jeu. Mais voilà, il y a la tête de mort. Voilà. Et là, je crois qu'actuellement, c'est assez ahurissant. On sait ce que c'est que les gens qui portaient les têtes de mort auparavant. Bon, en gros, les SS, quoi, en gros, hein, ils l'avaient sur la casquette. Là maintenant, toutes les enseignes se retrouvent avec le moindre choc de bière automatiquement sa tête de mort, et donc ça pose problème, quoi. Ça veut quand même laisser entendre que c'est ça l'étendard, quoi. C'est pas les, il n'y a pas que les pirates et les bikers là avec leur grosse moto pétaradante ou les SS, non, c'est tout un chacun, des enfants de 2 ans ou 3, ont droit à leur tête de mort, quoi. Bon. Alors voilà un exemple, là, c'est Crystal Ren, qui était mannequin, bon, plutôt maigrichonne, hein, qui a découvert qu'elle était prise dans la tourmente des TCA, et qui avait des accès anorexiques, bien sûr. Alors là, ça allait bien, elle était demandée, puis après un moment, elle s'est posée la question, est-ce que est devenue boulimique. Alors, comme elle était encore jeune, elle a pu quand même se reconvertir en mannequin, mais alors à ce moment, changeant de catégorie. Là, c'est XXL. Quoi. Donc, ça marche encore. Combien de temps? Alors après, il y a d'autres catégories, c'est les vieux mannequins XXL, et ça marche aussi, s'ils sont assez joviales, s'ils sont assez... je sais pas quoi, parce que... Bien sûr, on s'est aperçu qu'un tiers la population française était des personnes de plus de 65 ans. Donc du coup, forcément, il y a tout un marché qui s'ouvre, donc du coup, ne perdez pas espoir. Bon, voilà. Merci Coca-Cola. Alors voilà, pour rassurer sur la boulimie, voilà le top 10 qui a été décerné pour les mannequins de ce nouveau genre. Et donc il est temps, il est temps d'être moins boulimique en vous parlant un peu de la boulimie. Donc voilà, bulimia nervosa, bien symétrique par rapport à l'anorexie. Donc bulle, vous l'entendez, c'est le bœuf. Voilà, au départ, c'était ce qui était frappant, c'est que la personne mangeait comme un bœuf, c'est-à-dire, bon, vraiment, vous pouvez lui amener 30 tonnes de foin, il va bouffer, quoi. Et là, en plus, elle la cherche, la nourriture. Et c'est pas du foin. Donc, les crises sont récurrentes, des absorptions énormes de nourriture en 2 heures, hein, c'est un critère, on regarde sur 2 heures, combien, bon, oh, des kilos. Et en plus, sentiment de perte de contrôle sur la quantité et la qualité des aliments ingérés. Voilà, c'est-à-dire il y a ces deux éléments qui définissent la boulimie. Des quantités énormes qui sont englouties, en 2 heures, c'est inimaginable. Et la personne dit, voilà, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'arrêter, voilà, tant qu'il reste quelque chose dans la boîte de conserve, parce que c'est souvent ça, hein, vous allez voir l'image, hein, le frigo reste ouvert, et puis tout ce qu'il y a est enfourné. Quantité et qualité. Alors ce qu'elle recherche, bien sûr, c'est pas n'importe quoi. C'est bien sûr tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras. Alors bon, des gâteaux à n'en plus finir, et puis des cassoulets, c'est pas la peine de prendre la peine de réchauffer ça, hein. Gelé, ça fait rien. Le problème, c'est le passage dans le gosier, on dirait. Comportement compensatoire, donc inapproprié, récurrent, enfin inapproprié, mais par rapport à son modèle, si, récurrent, pour prévenir la prise de poids, donc la même skyrielle, hein, les vomissements, les purgatifs, le jeûne, l'activité physique excessive, donc de la même façon que l'anorexie qui n'arrête pas de se dépenser pour brûler les quelques calories qu'elle a pu amasser. Alors la boulimie aussi fait beaucoup. Crise et compensation 2 fois par semaine pendant 3 mois. Voilà, ça si vous avez comme ça, pendant cette durée, là, vous pouvez commencer à dire, ouais, c'est une boulimie. L'estime de soi est influencée par le poids et la forme corporelle. Et il s'effondre, en fin de compte, cette estime de soi. Les troubles apparaissant hors anorexie mentale. Alors, deux types là aussi, bon, vous avez compris, hein, le type avec vomissement et purgatif, ou. Et puis, des types sans vomissement ni purgatif. Voilà. Donc, dans les thérapies, on fait d'abord la différence parce qu'il y a deux traitements, enfin, deux causes un petit peu différentes. La boulimie, l'épidémiologie, donc la boulimie est plus fréquente que l'anorexie d'abord. Et là aussi, c'est surtout à la fin de l'adolescence que ça démarre. Et ça concerne, au moins pour les États-Unis, 3% des adolescentes. Alors là aussi, il faudrait mettre tout un tas de bémols, hein, mais bon, je vous donne les trucs bruts parce que. Voilà, une interprétation psychiatrique voit la boulimie comme une réaction de défense contre la séduction et l'acte sexuel par la déformation du corps, l'obésité, en un mot, qui servirait de bouclier pour éloigner les regards concupiscents. Pour faire très simple et très vite, après vous pourrez aller plus loin. L'anorexie conserverait son corps dans un état, alors cette fois, prépubère. Hein, puisqu'il y a aménorrhée et donc il n'y a pas de développement des glandes mammaires ni des tissus graisseux adipeux, etc. Donc voilà, c'est donc dans les deux cas un point commun, c'est la sphère génitale surtout qui est le nœud de la question, en gros. Alors, toujours dans l'épidémiologie, la compulsion à engloutir des aliments caloriques, sucrés et salés, et gras, on a envie de dire, début brutal, malaise qui est ressenti, sensation de vide, mais alors comme une fringale en quelque sorte, hein, vraiment, les creux de l'intérieur, il va falloir remplir. Anxiété très pénible, avec culpabilité, et puis à un moment, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus lutter contre cette pulsion de dévoration, perte de contrôle, donc, on s'empiffre, et après, sitôt, on s'arrête, une honte infinie qui monte. Quoi. Voilà, vous avez la culpabilité avant, et puis une honte après. Quoi. Voilà, donc des émotions complémentaires, mais pas au même étage. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'arrêt d'empiffrement, je ne sais pas comment le dire sans être péjoratif, hein, d'engloutissement, disons, eh bien c'est simplement, on s'arrête parce que les douleurs abdominales sont insupportables. Simplement. D'où les paniques et les vomissements qui essayent de maintenir le poids. Alors donc du coup ça entraîne, là tout ça vous devez le connaître dans votre entourage, hein, bien sûr, surveiller les lignes, donc toujours en train d'épier son image dans le miroir, donc voilà, il y a aussi là aussi une fascination par le miroir qui renvoie cette fois une image qui est quand même plus consciente, hein, plus proche du réel, je crois. Alors voilà l'image qui montre bien que le frigo est ouvert, il est abondamment rempli par les bonnes âmes qui le remplissent, et la personne se charge de le vider. Quoi. Alors après, bon, ça déborde, on a d'autres problèmes qui se posent, donc à tout âge, comme vous pouvez le voir, chez les jeunes, chez les personnes âgées, et du coup tout un tas de choses se produisent. Alors bien sûr, c'est ce qui est de pire, c'est quand même sur ces enfants qui donc alors frôlent l'obésité et qui vont avoir tout un tas de maladies, et le diabète qui va être engendré avec tout ce que ça implique de soucis. Donc un impératif, c'est de faire des régimes, mais ces régimes, tout le monde le sait, c'est tout à fait inefficace parce que c'est le système de yo-yo. On peut perdre des kilos et puis on les reprend aussi secs, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les cures d'amaigrissement. Dans les années 70, ça a été un carnage, quoi, bien sûr. On peut l'expliquer. Donc une obsession, c'est le poids, que ce soit le petit poids ou le gros poids. Hein. Bon, de toute façon, il y a un instrument de mesure, c'est la balance. Et donc... on passe sous la toise, là, en permanence, avec toutes les manœuvres pour pouvoir arriver à essayer d'extirper, et donc, voilà, les chutes de poids. Alors, si c'était comme ça se passait dans les années 70, perdre 70 kilos en un mois ou deux, ça veut dire que tous les toxiques étaient accumulés dans les corps adipeux qui viennent de fondre, sont libérés dans le flux sanguin, et là ça vous donne des doses mortelles, et ça explique toutes ces morts qu'on a eues dans ces années 70 jusqu'à 80, où là on a commencé à dire que les cures d'amaigrissement par les charlatans, hein, patentés ou pas, plus jamais ça, quoi. C'est-à-dire, perdre un kilo par mois, à la limite, c'est peut-être raisonnable, mais 10 ou 20 ou 30 kilos, c'est du suicide, quoi. Alors voilà, donc un site qui était prévention de la boulimie et même de l'anorexie, c'est Ex-Ana, comme vous le voyez là, donc fonctionne toujours, fonctionnait en tout cas en 2008, et c'est là qu'il y a eu tellement de scandales que donc des députés ont déposé des décrets, enfin pas des décrets, mais des propositions de loi et que le site qui, les sites américains qui venaient, voilà, il y en a un qui est donné en référence sur ce site, mais il est, à mon sens, pas, enfin, tu vois, pas avec ma machine, pas accessible. Et voilà le nom, comment ça s'appelle, c'est Sweet Anana. Voilà, donc Sweet, donc c'est le douce ananas, en quelque sorte. Anna, c'est bien entendu, là aussi on entend autre chose, mais en ce moment, mais c'est bien entendu Anna, pour dire anorexie. Voilà, alors bien sûr, ça c'est de, vraiment, je sais, on ne sait pas comment les bloquer, hein, ces appels au suicide. Alors bon, ben voilà, ça c'est l'autre versant, l'évolution de la femme, cette fois. On voit que sur tous les continents, tout va bien. Et donc reste une question pendante, c'est pour l'anorexie, grosse de qui? Et puis, boulimie, qui dévore-t-elle? Voilà. Bien entendu, puisqu'on dit qui, c'est forcément la personne la plus proche. Et cette personne la plus proche, au moins dans la vision freudienne, c'est la mère, bien sûr, qui est en rapport. Donc, il y a des réponses, mais je n'ai vraiment pas le loisir de pouvoir vous en parler cette fois. Alors, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça, donc il y a beaucoup de formes de thérapie, bien sûr. Pour les plus courantes, il y en a trois. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivistes et comportementalistes, on va dire, qui ont des succès, qui sont intéressants, mais qui restent un peu en surface, probablement. Alors, ils travaillent sur les symptômes, comme la description du SM4 ou 5, c'est la même critique. Mais bon, si ça peut aider, voilà. Mais simplement quand on est mauvaise langue, on dit oh oui, mais le symptôme disparaît puisqu'on l'a traité en 10 séances, bon, très bien, mais il va réapparaître sous une autre forme, quoi, en gros, et donc on recommence peut-être. Mais bon, voilà, je n'ai pas pratiqué, je connais bien les bases, mais je ne peux pas vous en parler. La deuxième famille de thérapeutes qui marche assez bien aussi, paraît-il, c'est la thérapie systémique, familiale, je ne sais quoi. Alors là, c'est plutôt toujours la suite du behaviorisme, mais revue par Gregory Bateson, en gros, et donc, bon, Palo Alto, etc. Bon, tout un tas de gens sympathiques qui arrivent à avoir de bons résultats, je crois. Et puis enfin, la troisième, c'est justement l'approche freudienne, on va dire, pour faire simple, donc plutôt d'inspiration psychanalytique. Alors, je vous donne deux exemples de noms. Donc, un qui fait un peu autorité aussi, c'est Maurice Korkos, qui est à Paris, à l'Institut Mutualiste Montsouris, qui est le successeur de Philippe Jamais, qui donc, deux hommes qui sont passionnés par l'adolescence, et donc tous les problèmes liés à l'adolescence, dont l'anorexie. Et puis une psychologue, alors cette fois Nathalie Dumais, qui est lyonnaise, en tout cas Vénitieux, son cabinet, qui est même la directrice de l'Institut de Psycho de Lyon 2, qui elle aussi de bons résultats, très sympathique et tout. Et puis enfin peut-être une troisième, j'aurais pu la mettre, mais j'ai pas de texte proposé éventuellement, c'est Colette Combes, qui elle aussi, alors traite aussi bien les anorexiques que les boulimiques, avec beaucoup de résultats, elle a beaucoup une grande sensibilité, une grande sens clinique. Bon, alors elle a la caution médicale en plus, et elle travaille avec les endocrinologues et tout, enfin, vraiment elle fait un DU sur les TCA, et donc elle est psychanalyste, mais elle est vraiment en prise directe avec un peu toutes les formes de thérapie. Donc si vous avez des difficultés de ce côté-là, adressez-vous éventuellement à une de ces personnes. Donc voilà, ben là je vais de quoi vous lire un petit bout de texte de Maurice Korkos, l'anorexie mentale du journal des psychologues. Voilà, c'est mais je crois que je n'ai vraiment pas abusé de votre gentillesse. Donc Nathalie Dumais, elle a écrit aussi un article dans un bouquin qui s'appelle « Corps, acte, symbolisation » de Bock, 2008. Voilà, alors là, bon, là, j'ai mis les six éléments de l'acte psychanalytique, en gros, hein, les symptômes, l'anamnèse, les relations d'objets, les angoisses, les agirs mortifères, et puis l'épilogue, bien là, la boulimie dont il s'agit, Nina, à la fin, elle est faire des gueuletons avec ses copains, sans avoir de prévention, elle est rentrée dans une chorale, pouvait comme ça chanter à tue-tête, ce qu'elle n'a jamais pu dire auparavant, et crier, etc. Et voilà quelques références qui vous permettront de plonger dans cet univers. Voilà, Colette Combe, soigner l'anorexie, ou bien comprendre et soigner la boulimie, chez Duneau. C'est la deuxième édition, ça. Maurice Corcos, Le corps absent, le psychosomatique des TCA, chez Duneau toujours. L'anorexie mentale, dont je viens de vous donner l'élément 2006. Nathalie Dumay, Agir de mort, agir de vie, quand la boulimie fait rage, dans le corps, acte et symbolisation. Donc, ça, c'est l'équipe des Lyonnais, hein, le gang des Lyonnais, si j'ose dire. Bernard Chouvier et René Roussillon et Nathalie et tous les autres de Lyon 2. Et puis, là, un collectif que vous pouvez trouver facilement encore, c'est Grangeard et compagnie, l'obésité, une expression corporelle. Voilà, le journal des psychologues, 2013. Et puis enfin, bon, voilà, le Matryoshka, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais c'est que, bien entendu, notre esprit est constitué de tout un tas de dépôts que dépose la mère, et que, etc., etc. Voilà, il faut que je m'arrête pour que vous puissiez avoir la parole. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, vous avez un micro, je crois, baladeur, par là. Oui,
j'ai une amie qui me racontait, alors elle se punissait adolescente en s'interdisant de boire, par exemple pendant une journée, deux journées, et puis elle se mettait des notes sur 20, par exemple en s'enlevant un point à chaque fois qu'elle allait à la selle dans un mois. C'est-à-dire, pour avoir 20 sur 20, c'était l'occlusion intestinale, quoi. Oui. Est-ce que ça s'apparente un peu donc à l'anorexie?
Non, là c'est contrôler les sorties. Et dans la définition de l'anorexie, il n'est pas question de boisson. Mais alors là c'est mortifère, hein, que de se priver de boisson, parce que, ou déshydraté, dès qu'on est déshydraté, toutes les réactions chimiques sont black boulé, quoi, en quelque sorte, quoi. Et puis là pour les selles, faire de la rétention, non, c'est coprophagie, enfin non, même pas, c'est encoprésie, je crois, c'est-à-dire garder ses fesses, mais là c'est un empoisonnement là qui est risqué, quoi. C'est-à-dire de pas boire, ça veut dire que déjà toutes les toxines ne sont pas évacuées par le rein. Et donc, du coup, on ne va pas uriner. Et si, en plus, on fait tout ce qu'il faut pour garder les fesses, alors là, bon, c'est le double poison, on va dire. Donc là, c'est inquiétant, mais c'est, je ne crois pas que ce soit de l'anorexie, ça.
Il y a 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus exactement quand, mais au Vinatier, j'étais allé à une exposition sur les troubles de l'adolescence. Et sur la partie troubles alimentaires, une vidéo d'une chercheuse, alors je ne sais plus si elle était psychologue, anthropologue, sociologue, oui, affirmait que les cas d'anorexie s'observaient uniquement dans les pays ou dans les civilisations d'influence judéo-chrétienne. Elle a cité le cas de jeunes africaines, de cas d'anorexie observés chez des jeunes africaines, uniquement parce qu'elles étaient élevées dans une religion
occidentalisée, quoi.
Voilà.
Oui, oui.
Alors je voulais savoir quel crédit apporter à de telles affirmations.
Eh bien, je ne sais pas exactement, mais l'élément qui me vient à l'esprit, c'est que la Sainte Catherine de Sienne, elle était plus ou moins embrigadée dans des mouvements monistes, de nonnes, quoi, en gros, et que dans la religion chrétienne, en tout cas, il y a le jeûne qui est quand même bien mis en valeur, que du coup, peut-être qu'il y a une possibilité idéologique, que jeûner, c'est se mortifier, et se mortifier, c'est gagner peut-être le paradis ou quelque chose d'approchant, qui a été reprise par plus ou moins le monde musulman, parce que le ramadan le fait à bas bruit, puisqu'on peut manger le soir, mais il y a quand même toute la journée où on endure. Alors je ne sais pas comment...
Je me souviens, elle disait notamment, oui. Pour conforter son propos, elle disait cette sorte d'ambivalence qu'on balance aux jeunes femmes notamment, l'image de la Vierge Marie.
Oui.
Vous
connaissez
la suite.
Oui. D'accord, oui. Bon, la Vierge Marie, elle a conçu sans avoir de rapport, quoi. Voilà. Donc, là vient. Mais, n'empêche que. Je crois que, justement, la Vénus de l'Espugne, elle montre que l'idéal féminin a de l'embonpoint. C'est-à-dire, en gros, si je traduis ça. Elle a des réserves de graisse, qui fait que, comme on va avoir la disette, c'est sûr, pendant plusieurs années, au moins elle va pouvoir tenir, et non seulement elle va pouvoir tenir, mais elle va être féconde, et que donc c'est ça, c'est une déesse de la fécondité par rapport à une brindille qui, elle, ne pourra pas tenir par le froid, la glaciation, etc., et que donc, du coup, ça laisse entendre que l'anorexie, c'est peut-être un rejet aussi de la surabondance de biens de nourriture. Peut-être que du coup, alors forcément, si on prend le cas que vous donnez de population africaine, un coup c'est les criquets, un coup c'est les balakas, un autre coup c'est les sélékas, un autre coup c'est je ne sais pas quoi. De toute façon, il y a toujours des catastrophes, enfin, les sept plaies d'Égypte, pour rester assez lointain, qui font que c'est la disette et que du coup, je pense que quand on meurt de faim, on connaît ces tortures en quelque sorte, et que du coup, dès qu'on peut prendre l'inverse, peut-être qu'on le fait. Que ça, ce sont des idées que l'on recueille depuis des générations, mais par contre, dans notre société, et c'est vraiment le typique de ce qui se passe chez les états limites, c'est qu'on est dans une opulence, alors pas pour tout le monde, hein, mais là en France, je crois qu'il y a 80% de la population qui sont dans l'opulence, ça en devient plus que gênant, quoi. Enfin, on vient de passer les fêtes, quand vous voyez les étalages, ou quand vous regardez la télé, vous avez un bourrage de crâne, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le plaisir avec simplement un repas frugal, il faut forcément que ça soit pléthorique, et que forcément ça soit des mets rares, donc chers, etc. Donc il y a peut-être, alors je ne sais pas si c'est le judéo-chrétien, mais je ne sais pas les coutumes dans la religion juive, je sais qu'il y a le pain azim et tout un tas de choses, je pense qu'il y a aussi des ascèses qui doivent venir, mais je n'ai pas. Oui.
Par rapport à ça, en Inde, il y a par exemple les sadhus, donc c'est,
oui, oui.
C'est très ascétique là.
Oui, puis ils sont assez.
Ils mangent un minimum, enfin,
ce voilà, oui.
Qu'on leur donne. Et
partout, oui, oui. Oui, oui. Ils dépendent de la charité.
Oui, voilà.
C'est, oui, c'est ça, hein, les moines, là. Oui, voilà. Qui donc. Il n'y a pas de surplus. Oui, moi, tout ce que je sais du mode de vie macrobiotique, c'est on mange bon, le régime numéro 7, une poignée de riz, vous la tournez un paquet de fois dans la bouche avant de l'avaler, vous faites l'anorexie, quoi, en gros. et tous les gens que j'ai vus au Bolambois à l'époque, à la belle époque, bon, c'est vrai que c'était un monde assez proche des anorexiques, quoi. C'est-à-dire, ils méditent chaque fois qu'ils dégustent un grain de riz, quoi. En gros, alors il est complet, c'est vrai, mais oui. C'est... Alors, je sais pas, peut-être que c'est vite fait de dire c'est bon judéo-chrétien, c'est finalement. C'est nous, quoi, c'est notre culture, que donc du coup les autres seraient. Mais c'est peut-être pas tout à fait vrai, je sais pas, mais je pense qu'il y a forcément une religion, un noyau religieux, et donc ça peut faire lien avec l'Inde, parce que je pense que les religions viennent de ce point-là, qui quand même prône, oui, une certaine ascèse. Alors il y a un autre élément, mais c'est biologique comme argument, c'est que il y a une tendance dans toutes les espèces à avoir une distribution gaussienne, et donc il y en a qui s'empiffrent, toutes les espèces, il y en a qui s'empiffrent et puis d'autres qui se restreignent, et se restreindre, c'est finalement ce complexe du pélican où la mère sait qu'il n'y a pas à manger pour tout le monde et que donc elle-même se retire, se met en retrait, dans ce repli anorexique pour que ses enfants puissent survivre et que la fille s'est tellement identifiée à sa mère. Mais là, on ne l'aura pas développé, mais je vous laisse chercher par les références que je vous ai données qui sont sur le site. Et que donc du coup elle se met dans la position de la mère et elle se sacrifie pour ses frères et sœurs en quelque sorte, et c'est ça qui expliquerait que vraiment elle insiste pour couper, pour faire les gâteaux, puis les couper en tranches et puis gaver les membres de la famille, mais elle acceptera de prendre qu'une miette ou deux, c'est-à-dire un altruisme, on va dire, hein, pour faire très simple. Il y a des comportements d'altruisme qui existent dans toutes les espèces. Alors l'exemple le plus probant, c'est des oiseaux qui ont construit leur nid, qui ont fait leur nichée, qui nourrissent leurs jeunes, et un prédateur arrive. Eh bien, le prédateur, s'il découvre le nid, va dévorer la nichée. Eh bien, que fait un des parents, sinon les deux? Ils vont harceler le prédateur, et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un des deux qui fait mime d'avoir une aile blessée, et qui tombe, qui se laisse tomber, ce qui fait que ça attire l'attention du prédateur, qui va, à ce moment, se mettre en chasse de ce parent, qui lui, alors, est assez prompt pour l'esquiver, mais le but du jeu, c'est d'éloigner finalement ce prédateur du risque de découvrir la couvée. Et ça se trouve chez les oiseaux, mais ça se trouve aussi chez les poissons. Je pense au mâle de l'épinoche qui défend son nid comme ça, en faisant une sorte de leurre par rapport à des prédateurs qui arrivent, et il va en quelque sorte détourner l'attention. Et donc du coup, il prend le risque, lui, de se mettre en péril pour pouvoir sauver la couvée, la nichée. Donc ça se pourrait bien que l'anorexique est quelque chose de ce type-là. Bien sûr, la boulimie, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire, bon, c'est un peu ce phénomène que lorsqu'on commence quelque chose de satisfaisant, ensuite, éventuellement, on a le processus de l'addiction qui peut se mettre en route, quoi. Mais, oui, alors, oui, là, je crois, au fond, et puis gardez bien votre idée.
J'ai beaucoup apprécié votre intervention, mais cependant, depuis de nombreuses années, je me pose la question, y a-t-il des études faites sur l'anorexie ou la boulimie due au père? Et ne pensez-vous pas qu'au temps de Freud, le rôle du père était quand même à peine développé dans les études?
Alors, la tendance actuelle de la suite des Freudiens, donc Michel Korkos en particulier, dont vous aurez les références là, pense que la relation qui est un peu spéciale, c'est par rapport à la mère, et que justement le père est plutôt un peu effacé apparemment, et que le fait de, donc s'il reste dans la dans l'anorexie, le fait de rester avec un corps prépubère, ça améliore les relations par rapport à l'inceste, hein, en gros, c'est-à-dire refusionner avec la mère, comme ça a été entrevu dans l'esprit de la jeune fille, et à ce moment, la relation par rapport au père est quand même toujours possible, parce que ça reste dans une relation d'enfant à parent, en ne contaminant pas par le désir sexuel, en gros, hein. C'est-à-dire, ça serait une façon de continuer à avoir une relation comme auparavant avec le père, sans que ça soit sexué, et que donc pas dangereux, et donc du coup, bien entendu, chez la jeune fille, elle n'aura pas de relation avec le père, elle n'en a pas plus avec les autres hommes autour d'elle, du fait même qu'elle est, elle n'est pas attirante, parce que là, justement les points qui vont maigrir, c'est essentiellement les seins, les fesses, les hanches et la taille, etc. Enfin, c'est pas vraiment un objet sexuel, quoi, pour faire très très rapide. Donc là, je veux pas incriminer Freud qui serait pas occupé du père. Il a même peut-être un peu trop poussé, puis Lacan a rajouté le nom du père, etc. Et je crois que les féministes s'acharnent à vouloir vraiment détruire le peu qui y est du rôle symbolique du père. Mais bon, je sais pas hein, si on peut avancer plus, mais je crois que les personnes qui font les thérapies d'inspiration freudienne, tiennent bien compte du père et de la mère et tout ça. Et c'est comme ça que les choses peuvent peut-être se remettre en place, quand même. Mais bon, c'est pas oublié en tout cas. Enfin, Maurice Corpus en parle beaucoup dans Le corps absent, hein, entre autres.
Oui, oui. Alors justement, vous, par rapport aux pistes d'explication, la semaine dernière sur l'alcoolisme, vous parliez d'absorber du liquide et vous reliez ça à la toute petite enfance, à un problème de stabilité, etc. Est-ce que par rapport à l'anorexie, on est en capacité de relier ça aussi à des stades?
Ah oui, oui, c'est à peu près la même période, oui, 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 oui. Oui, 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 c'est-à-dire, c'est... alors, c'est pour comprendre, c'est... Ces personnes se développent très bien, puisqu'elles sont brillantes, elles ont toutes les qualités, en gros, mais à un moment, il y a une difficulté. Alors, si on est freudien, on se dit, s'il y a une difficulté, et je ne peux pas vous le démontrer comme ça, mais je peux vous en lire un mot, des éléments, s'il y a une difficulté, la stratégie de l'inconscient, c'est de revenir en arrière, pour retrouver une période où il n'y avait pas de la difficulté. Donc c'est ce qu'on appelle une régression. Et cette régression permet de souffler un peu, et puis bien souvent, on peut pas repartir à l'avant, et donc du coup, on passe pas la barre, en quelque sorte. Alors, je pense que je vais peut-être prendre encore quelques questions, puis si jamais il y avait un peu de temps, je vous lirai un petit bout de la démonstration, mais sinon, je mettrai sur le site, hein, comme ça vous retrouverez un petit peu des éléments. Oui, oui, donc là, au fond, là, si vous pouvez...
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
La semaine dernière, pour l'alcoolisme, vous parliez d'un processus de création de bouche qui permettait de verbaliser son désir, qui était donc interrompu et qui entraînait le passage à l'acte. Vous avez bien décrit ce qu'était le processus interrompu, mais je suis curieux de savoir ce que serait... quel serait le stade d'un processus qui serait abouti, qui arriverait à cette création de bouche?
Ah oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. C'est ce que Michel Mongeaux explique dans La problématique alcoolique, donc ce livre en question, qu'il y a deux choses qui sont mises en œuvre, en tout cas d'un point de vue freudien, hein, c'est une thérapie de groupe, déjà, parce que justement le groupe protège la personne qui est très fragile, finalement, et deuxièmement, en groupe, il est possible de parler, c'est typique des alcooliques anonymes, hein, qui reproduisent en quelque sorte quelque chose de très proche, et à ce moment, la bouche, bien sûr, elle peut absorber du liquide, de l'alcool par exemple, mais en même temps, elle peut émettre des sons, et émettant des sons, elle peut décrire ses émotions internes, et donc surtout décrire les différents états qui sont ressentis, donc les affects, et puis ensuite, au fur et à mesure où ça se développe, ce sont les représentations des situations qui sont difficiles et qui peuvent être décrites grâce à des représentations de mots. Et une fois qu'on est passé des affects aux situations, au contexte en quelque sorte, et puis à la pensée, ben, c'est ce que René Roussillon appelle la chaîne de symbolisation, et à ce moment vous mettez à parler en disant mais j'ai envie de ceci ou bon, pas envie de cela, et à ce moment le problème est presque résolu. Mais à ce moment la jouissance, puisque la bouche a été créée, les muqueuses fonctionnent, et il est agréable de parler, donc, et que du coup, alors bon, ça dépend pas avec n'importe qui comme pourraient dire les humoristes. Oui, c'est-à-dire parler va donner du plaisir, et que du coup on comprend que, par exemple l'alcoolique, puisque vous le reprenez, ben, l'alcoolique il ne peut pas parler, ou quand il va parler c'est en faux self, c'est-à-dire vraiment pas sa personnalité vraie, c'est quelque chose d'habillé, et que du coup il n'a pas le plaisir de parler, et que du coup il n'a qu'un seul plaisir qui est pulsionnel, qui est de boire. C'est-à-dire, bon, c'est... le passage à l'acte, c'est de court-circuiter la chaîne de symbolisation. Donc du coup, vous buvez, ça vous empêche de parler. Mais si vous êtes en groupe et que vous pouvez parler, parce que ça se passe, parce que chacun n'en est pas tout à fait au même niveau, donc du coup, il y a un entraînement qui commence à se mettre en place, et du coup, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première séance, je crois que je l'ai dit, le dispositif filmait, parce qu'il y en a beaucoup qui manquent. Alors, donc, la séance suivante, la première partie, c'est de restituer ce qui s'est passé dans le groupe. Donc, du coup, chacun s'entend, se voit, entend ce que les autres disent, on dit, et donc on se fait une représentation, c'est-à-dire qu'il y a un bain de parole qui remplace un bain d'imbibition d'alcool. Finalement, c'est le troc. Et ça, alors, en restant freudien, Freud l'a dit, jamais personne n'accepte de donner quelque chose sans contrepartie. Voilà, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, on fait un troc. Et le troc, c'est donc de dire à la personne, mais sans lui dire, mais de l'amener à cette position, diminue ton alcool, mais augmente la parole que tu peux soutenir toi-même. Voilà, et donc du coup, il y a une grève qui se fait, quoi, et que donc du coup, on passe dans le monde de la parole et de la pensée et de l'échange. Voilà, c'est parce que l'alcoolique, au début, il trinque, mais après, il se planque et il boit tout seul, dans sa solitude, en un mot. C'est-à-dire, bon, il se referme sur lui. Tandis que quand on a la capacité de parole, ben ça veut dire que vous avez une jouissance simplement par votre bouche, en un mot. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça l'idée de Michel Mongeos, quoi, en gros, et qui avait des succès, parce que là, elle a disparu en 2012, mais oui, elle a une succession, quoi, de gens qui continuent, et la preuve c'est que je crois que les alcooliques anonymes étaient au départ deux alcooliques qui se sont retrouvés dans un troquet, qui ont dit bon, il y en a marre d'être complètement esclaves de l'alcool, il faut qu'on fasse quelque chose, ben, si on faisait un gros, ils étaient déjà deux, ben, ils ont parlé à d'autres copains et ils ont fait ces alcooliques anonymes, et donc ça marche, je crois. C'est-à-dire, d'après les témoignages que j'ai eus, alors il y a fort longtemps que j'étais à Vinatier, je faisais ça, c'était que vraiment le groupe les tenait, parce qu'ils avaient besoin d'être tenus, et bien entendu ça renvoie au fait qu'ils n'ont pas été tenus comme ils auraient aimé être tenus quand ils étaient nourrissons. Ça leur fait un corset externe, mais c'est déjà mieux que rien, parce qu'avec un groupe, on peut parler. Alors que tout seul, on peut faire un peu jargoter, quoi, hein, faire du solipsiste, mais rien, personne ne vous renvoie. Tandis que dans un groupe, on se fait moucher, on dit « Ah ouais, non, mais... » Bon, bien souvent, c'est un homme qui va dire « Ah ouais, mais là, machin, je sais pas quoi. » Et puis, par contre, chez les femmes, et les femmes répondent « Ah, mais dis, pourquoi les femmes, on est égaux, etc. » C'est-à-dire, bon, il y a l'échange, et du coup, ils changent de position, et de ce fait, voilà, des fois, c'est en se disputant qu'ils peuvent évoluer aussi, quoi. Et donc, de dire... Il y a du plaisir, oui.
Oui, donc je veux dire, la source du plaisir, au lieu d'être le produit, à la limite, ça devient la bouche elle-même.
C'est l'air. Et l'air ne vous rend pas addict, quoi. Bien sûr, regardez, comme justement...
Ça fait longtemps, l'air.
Oui, non, mais regardez le plaisir qu'ont les femmes à, entre guillemets, papoter. De parler chiffon, je sais pas quoi, pour un mec. Mais bon, bah. C'est, non, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais c'est une figure. C'est, elles ont un plaisir incroyable et elles vont jusqu'au fond de leurs émotions. Bien sûr, c'est quand même cette capacité de pouvoir dire tout un tas de choses que les hommes, eux, bon, il faut faire les caïds ou je ne sais quoi. On parle fort, on passe à l'acte, voilà, en gros, que du coup, c'est manifeste, et il y a un plaisir à se retrouver entre copines, il y a même des bodybuilding ou je ne sais quoi, où c'est uniquement des femmes. Alors avant, on n'est pas en Turquie, mais bon, ben c'est probablement que ça correspond à... Une enveloppe qui ne vient pas perturber avec tout un tas de séductions ou de je ne sais quoi, c'est entre filles, il y a des choses, tout comme je pense entre hommes, c'est la même chose, on a d'autres groupes qui font que, bon, on ne va pas se laisser perturber par des problèmes d'un autre ordre, de séduction, quoi, en gros.
Oui, bonsoir Daniel.
Oui.
Ouais, tu te fourvoyais dans le stéréotype, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait quantifié qui parle plus, mais bon, ça c'est un commentaire annexe. Là, très sérieusement, je veux faire une liaison dangereuse, en fait,
oui.
Cette question.
C'est bien.
Puisque, en réalité, tu n'as pas trop évoqué la question sociétale, à l'environnement, en fait. Et je ne suis pas sûr qu'il soit neutre, puisque dans la société, on est censé sous injonction, soit de ressembler à des corps idéaux, en fait,
oui.
Comme tu l'as montré par la publicité,
oui.
Les mannequinats et des idées aussi de cet ordre, et en même temps, on est quand même dans une sorte d'injonction, en même temps, de consommer. Tu l'as
évoqué,
pour les faits qu'il faut tenter de s'égaver, consommer
oui.
Et aller de l'avant. Alors, ça a quand même un impact, me semble-t-il, je pense que ça fait plaisir à madame, beaucoup plus fort que la question familiale et de la mère. En réalité, puisque si tu regardes l'impact social, il est quand même grandissime. Je te prends juste deux exemples pour des personnes qui sont censées, a priori, ne pas tomber trop dans ces stéréotypes. C'est le candidat Hollande, quand il s'est mis à maigrir pour avoir un air un peu plus
respectable,
et le président Sarkozy, quand il a effacé ses bourrelets pour ne pas être trop mal sur Paris Match. Donc, à partir de ces deux exemples qui me paraissent à la fois comiques, pathétiques et risibles, tu peux quand même imaginer quand même qu'il y a un lien très très fort entre ces contextes, cette injonction que moi j'appelle souvent de la schizophrénie sociale. Je ne sais pas si tu as une idée pour savoir l'impact sur le reste en fait.
Non mais, d'accord, mais reviens au départ. Tu es sensible à la publicité ou à tout un tas de choses qui poussent à la consommation. Mais c'est peut-être bien ta mère et ton père qui t'ont donné les outils pour ne pas succomber à ces tentations de conso. C'est-à-dire le groupe fondamental pour le moment dans nos sociétés, c'est quand même la famille, et que du coup c'est bien là que ça se joue. Et il y a dans des familles où c'est une réussite exemplaire, puis d'autres où vraiment c'est, il n'y a pas de résistance par rapport à la consommation.
Donc social, l'éducation.
C'est oui, mais ça veut dire que c'est bien dans un noyau familial qu'on a les logiciels qui permettent de mettre à distance un certain nombre d'intrusions. Je sais pas, je prends juste peut-être un exemple. Il y a des familles où la télévision n'entre pas, en tout cas pas dans la chambre des enfants, ou bien en temps très limité, contrôlé en quelque sorte. Et puis d'autres où il y a peut-être, je crois, une dizaine d'écrans de télévision dans l'appartement. C'est-à-dire, chacun a un écran de télévision pour simplement des programmes de télé, ou bien des ordinateurs où là on a branché directement sur des sites internet, et donc là il n'y a aucune défense. Et il y a dans des familles où les parents sont inquiets et ont les outils eux-mêmes pour s'intéresser à ce que regardent les enfants, et puis verrouillent, et parce qu'il y a des moyens de verrouiller, et d'autres pas du tout. Donc du coup ça veut bien quand même laisser entendre que c'est bien dans ce noyau familial qu'on a des clés pour pouvoir se défendre, ou même quand même regarder des films de télé ou de publicité ou je ne sais quoi, mais que ça te glisse dessus comme sur les plumes d'un canard, comme on dit, et puis d'autres où ça rentre plein pot. Et même ça va tellement loin que les parents perdent le contrôle de ce qui se passe pour l'enfant. Et du coup, ça donne des familles qui sont à la dérive, quoi, en gros. Enfin, je sais pas, j'ai en tête ces émissions Super Nanny, là, ou l'équivalent, et qui montrent des scènes ubuesques, et Super Nanny arrive, observe, puis ensuite arrive avec ses affiches, et puis donne les 10 commandements, et puis ce qu'elle fait, c'est dit: t'es d'accord pour qu'on se lève à 7h, et t'es d'accord pour qu'on ferme la télévision à 8h? Oui, 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 et ça se passe. Alors, est-ce que c'est que du flan? Moi, j'ai l'impression que non. C'est-à-dire, l'enfant est considéré comme responsable de son engagement, et là, la super nanny, elle se substitue à la mère, qui a été débordée pour tout un tas de raisons, et à ce moment, ça fait une butée d'arrêt. Donc du coup, je pense que aussi bien les codes sociaux que la consommation, on y est plus ou moins perméable si on a été justement privé d'une certaine relation des parents, quoi, en gros. Si tu veux. J'ai pas, hein, mais... Ah, on s'éloigne, oui, vas-y, oui.
Je par rapport à ça, alors. Je suis assez d'accord avec cette histoire.
C'est 9h. Oh. Bon, alors, on continuera la semaine prochaine, donc, et puis on enchaînera sur les jeux vidéo, si vous voulez. Merci pour votre écoute et vos questions. Est-ce que vous avez des questions?